Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground.
Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode numéro 2 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. J'adore cette citation de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je parle systématiquement d'adoption dans les épisodes, d'adoption par le conjoint. Par contre, c'est la première fois que je vais aborder l'apparentement d'un enfant à un couple de femmes. La première fois, pour la simple et bonne raison que c'est encore une forme d'accès à la parentalité qui reste marginale dans nos familles. Clémence et Anaïs se sont rencontrées il y a 8 ans. Elles se sont lancées dans leur projet un an et demi après leur rencontre. Aujourd'hui, elles sont les heureuses mamans de Gustave. Alors je vous spoil un peu la fin, mais il est à noter que pour le moment, mes interviews ne recensent que des familles avec enfants. Gustave est l'un des premiers enfants confiés à un couple de femmes, à un couple homosexuel. En parallèle de leur parcours de PMA, Clémence et Anaïs ont mené un parcours d'adoption. Elles auront vécu 6 ans de tentatives, d'échecs, d'errances médicales, de doutes, de renoncements, d'annonces de grossesse de leur entourage, pour qu'alors qu'elles tiraient définitivement un trait sur leur désir de maternité et qu'elles envisageaient de devoir conjuguer leur futur à deux, l'univers leur envoie le plus beau des signes. La vie avait un plan pour elles. Elles ont déplacé des montagnes, fait bouger les lignes, n'ont jamais failli et surtout n'ont jamais cessé d'avancer alors même que l'administration leur disait que c'était impossible. Aujourd'hui, elles vivent cette merveilleuse aventure qu'est la maternité depuis près d'un an que leur petit Gustave leur a été confié. Je vous laisse découvrir ce témoignage poignant, vivre avec elles ces montagnes russes émotionnelles qui m'ont submergée quand j'ai moi-même découvert leur parcours au micro d'Élise de Hâte Prenons un Café. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir Clémence.
Bonsoir Constance.
Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible et d'avoir répondu par la positive à mon invitation parce que c'était pas forcément évident et je le sais parce qu'on en a discuté. Donc je vais commencer un peu différemment de d'habitude puisque je vais commencer par expliquer que tu as déjà enregistré un podcast qui est sorti. Alors là on se rencontre, on est au mois de juillet, le podcast sera diffusé, enfin cet épisode sera diffusé plus tard. Ton épisode enregistré avec Élise de Prenons un Café a été diffusé il y a 2 ou 3 semaines maintenant. Et vraiment, quand j'ai découvert cet épisode, je me suis dit qu'il fallait que vraiment que j'arrive à obtenir ton témoignage. C'est un épisode que j'invite tout le monde à aller écouter, qui est hyper émouvant, touchant et surtout qui dévoile une force de la part de votre couple pour accéder à la parentalité qui est juste énorme.
Bah, c'est super gentil, et c'est moi qui te remercie de m'avoir invité à témoigner, à nouveau.
Je t'en prie. Donc maintenant que tout ceci est dit, est-ce que tu peux te présenter, me présenter ta famille et me dire un petit peu ce que tu fais dans la vie, voilà, une présentation classique.
Oui, bah moi je m'appelle Clément, j'ai 36 ans, je suis neurologue et je suis en couple avec Anaïs qui a à peu près le même âge que moi et on est les heureuses mamans d'un petit garçon qui s'appelle Gustave et qui va avoir bientôt 15 mois. Voilà.
D'accord. Et j'ai encore vu tout à l'heure une photo sur Instagram de votre jolie famille prise par la cabine de Margot. Oui. Votre famille est magnifique.
Bah, t'es gentil.
Non, mais c'est vrai. Ça fait plaisir quand on sait les épreuves par lesquelles vous êtes passés de voir tout le bonheur que vous pouvez avoir maintenant. Oui. Même si ça n'efface pas l'entièreté du parcours, on va dire.
Oui, mais en tout cas, c'est une super récompense de passer des moments comme ça.
Voilà.
C'est super.
Tout à fait. Est-ce que tu peux me raconter comment vous êtes rencontrés avec Anaïs ?
Oui. Du coup, c'est un petit peu cliché. Hein, moi, donc, je suis médecin et on s'est rencontrés en fait à l'hôpital. Moi, à l'époque, j'étais interne, donc dans un service de neurologie, et Anaïs était infirmière dans le service. Et voilà, et on a eu un coup de foudre réciproque.
D'accord. Donc, du coup, une rencontre dans le milieu professionnel.
Exactement, sur notre lieu de travail, ouais.
Et donc, ce n'est pas un mythe que les médecins et les infirmières fricotent ensemble.
Non, désolé, mais... Enfin, ou désolé ou pas, mais oui, c'est plutôt, plutôt assez répandu, oui.
D'accord. Ok. Et alors, quand est-ce qu'est venu le désir d'enfant dans votre couple ? Vous êtes rencontrés en quelle année ?
On s'est rencontrés... en 2012, du coup, oui, on s'est mis en couple fin 2012.
Ça fait 8 ans que vous êtes ensemble.
C'est ça, exactement, ouais, bientôt 8 ans. Et du coup, bah, c'est venu très, très rapidement. On en a parlé très vite. Moi, je n'aurais pas forcément mis en route les choses aussi rapidement, mais c'est Anaïs qui en avait vraiment l'envie, qui a insisté. Et du coup, les premiers essais sont arrivés à un an et demi du début de notre histoire.
Ah oui, ça a été relativement rapide.
Oui, ouais, très rapide.
Comment elle a réussi à te convaincre ?
Bon, elle n'avait pas, pas beaucoup de travail à faire. Moi, j'avais toujours eu l'envie hein, d'être maman. En sachant, comme je l'expliquais hein, dans le podcast d'Élise, que c'était surtout que quand je me suis rendu compte que j'aimais les filles, je pense que c'est quelque chose que je me suis interdit. Et du coup, c'est Anaïs finalement m'a donné la force d'y croire et voilà, elle m'a juste fait comprendre que c'était tout à fait possible. Donc voilà, et puis c'est vrai qu'elle, elle m'a tout de suite, elle a dit, bah oui, mais si ça prend du temps, ce serait bien qu'on s'y prenne tôt. Donc voilà, donc pas beaucoup de travail à faire pour me convaincre quand même.
Oui, donc du coup, vous aviez l'air assez assuré dans votre relation, puisque ça a été finalement donc relativement vite. Enfin, vous saviez où vous alliez.
Oui, voilà, si on a débuté aussi rapidement le projet bébé, c'est qu'effectivement, voilà, toutes les deux, c'était une évidence et que voilà, qu'il n'y avait aucune question à se poser sur le fait que. Qu'on allait aller très très loin toutes les deux.
Et donc si je calcule bien, en gros, vous avez dû débuter les essais bébés autour de 2014, donc...
Juin 2014,
oui, excuse-moi. Donc oui, donc on est pile dans la mise en application du... Ah non, pardon, c'était un an après, excuse-moi,
ouais, c'est ça.
Des bêtises.
Ouais.
Donc on était, voilà, un an de l'application de la loi du mariage pour tous et donc de la possibilité d'adoption de l'enfant par le coparent.
Oui.
Comment vous l'aviez envisagé ? Vous avez suivi un petit peu ces débats ? C'était votre projet est aussi lié à ça ou pas du tout ?
Non, je pense que à cette époque, on faisait pas vraiment attention à l'actualité, voilà, politique. C'était notre projet et on s'y intéressait un petit peu plus tard. Mais voilà, c'était indépendant du contexte à l'époque.
D'accord. Et alors ? Est-ce que vous avez rapidement décidé de qui allait porter le bébé ou est-ce que ça a été sujet à débat ou vous avez dû
non,
prendre
du
une
tout.
Décision
du tout, c'est, ça a tout de suite été... on a tout de suite décidé que c'était Anaïs qui allait porter l'enfant. Parce que comme finalement c'est un petit peu elle qui m'avait, euh, qui m'avait convaincue et qui avait décidé de mettre en route le projet aussi rapidement. Voilà, ça s'est fait de cette façon-là et on s'était dit que en revanche, s'il y avait des difficultés, moi je pourrais venir prendre le relais dans un second temps.
D'accord, donc c'est quelque chose que vous aviez déjà envisagé.
Oui, c'est ça, exactement. On en avait discuté et voilà. Par contre, on n'avait pas discuté du délai au bout duquel moi je prendrais le relais, je ferais les essais. Mais dès le début, c'était clair que c'était pas qu'il n'y avait pas que Anaïs qui serait dans la possibilité de porter. Et à tout moment, voilà, si besoin, moi je pouvais prendre le relais.
D'accord. Et en fait, comment vous avez fait votre choix de méthode, on va dire, de conception ?
Il y a une petite partie de l'histoire. Alors, on souhaite pas trop en discuter, mais au tout début, on a fait quelques inséminations artisanales. Mm-hmm. Mais très rapidement, on a voulu médicaliser en fait les choses. Et on s'est beaucoup renseigné, enfin c'est surtout Anaïs qui gérait cette partie-là, elle s'est beaucoup renseignée en fait sur le forum des enfants d'arc-en-ciel.
D'accord, oui.
Et voilà, et donc elle a collecté des informations sur les différentes possibilités, les différentes cliniques, et voilà, et très rapidement on a médicalisé en fait... On a médicalisé les choses.
D'accord. Bon, après, c'est vrai qu'il faut préciser que vous êtes originaire de la région lilloise. En tout cas, vous habitez dans la région lilloise,
oui.
Peut-être pas d'origine, mais...
Oui.
Donc forcément, je pense que par défaut et par par logique, vous êtes parti sur la Belgique.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Exactement, oui.
Vous avez fait le choix de quelle clinique ?
Alors du coup, on a fait le choix de la clinique qui est à Gand, une clinique de Gand qui s'appelle... AZ Saint-Lucas.
D'accord, ok.
Voilà, pareil, donc ça faisait partie en fait du listing du forum des enfants d'arc-en-ciel. Et c'était, voilà, comme c'est à 45 minutes de chez nous, ça nous paraissait un bon choix. Ouais, 45 minutes en voiture, c'est, exactement.
Ouais. Ça, c'est vraiment le côté hyper positif d'être frontalier. Ça facilite grandement toute l'organisation autour de nos parcours, hein. Clairement.
Oui, ça c'est sûr. On l'a toujours dit. Ça a été une très grande chance pour nous de pouvoir faire les inséminations sur une demi-journée.
Oui, c'est ça.
Et de pouvoir y aller en voiture.
Oui, mais c'est ça. C'est vraiment génial. C'est vraiment une part. Que moi, j'imagine pas parce que je suis passée par la Belgique aussi, mais du coup en avion puisque moi je suis sur Bordeaux.
De Bordeaux.
Et c'est vrai que souvent, le choix est fait par rapport, le premier choix de destination, on va dire, est fait par rapport à la distance géographique.
Oui, moi, je pense que oui, effectivement, c'est assez logique.
Complètement. Est-ce que vous avez été bien suivi sur la clinique de Gand ?
Alors, initialement, on pensait que oui. Mm-hmm. En tout cas, le premier contact... les premiers rendez-vous, du coup que vous connaissez, hein, la psychologue, le gynéco, tout ça s'est super bien passé. On était enchantés de l'accueil. On sentait que c'était, ça semblait hyper naturel en fait de recevoir un couple de femmes. Ça a été un point positif parce que c'est vrai qu'en France. Pas du tout ce contexte-là. Ouais. Donc le fait de se sentir accueilli et finalement que ce soit un peu la norme là-bas, c'est super agréable. Mmh. L'entretien avec la psychologue était très enrichissant. Donc les premiers contacts très positifs. Mmh. Et même ensuite, les premières inséminations, nous on était plutôt contentes. On trouvait que ça se passait bien, les gynécos, les médecins paraissaient connaître leur boulot. Donc initialement, on était vraiment satisfaites de la prise en charge.
D'accord.
Et aussi au niveau financier, c'était, je pense, pas hors de prix, puisqu'on payait initialement moins de 400 euros l'insémination.
Ah oui, effectivement, oui.
Avec ensuite... Ensuite, il y a eu des augmentations assez régulières, mais pour terminer, entre 450 et 500 euros l'insémination. Mais du coup, je pense que ils étaient assez, assez compétitifs
oui,
par rapport à d'autres cliniques.
Complètement.
Ouais.
Vous avez fait combien d'inséminations avant d'obtenir ou de ne pas obtenir de grossesse ?
Alors, beaucoup. Mmh. Pour Anaïs, en fait, si on compte l'ensemble des inséminations, y compris celles qu'on avait faites avant, Anaïs a dû faire plus d'une vingtaine d'inséminations.
Waouh ! C'est fou. Ouais. Et à aucun moment, ils vous ont basculé sur un protocole de FIV.
Alors, je pense qu'ils l'ont abordé, mais sans vraiment du tout insister.
D'accord.
Je pense même que c'est nous, à un moment, qui avons mis, en fait, le sujet sur la table.
Mm-hmm.
Mais non, il n'y a jamais eu, en tout cas, enfin, il n'y a jamais eu de contrat dès le début en disant, voilà, au bout de 3, 4, 5, 6 inséminations, il faut arrêter et on basculera sur une FIV. Ça n'a jamais été un discours comme ça et voilà. Et donc c'est vrai qu'à posteriori, c'est complètement dingue, hein, d'avoir fait autant d'inséminations.
Oui.
Ouais. Non, nous, on a été, enfin, voilà, avec le recul, bon, je pense qu'on referait pas à ça, mais on était complètement obsédés, en fait. Hein.
Ouais.
Et on avait du mal, je pense, initialement aussi à lâcher sur l'idée de la FIV, sur l'aspect financier, en fait, surtout, je pense,
mm-hmm.
et sur la lourdeur, en fait, du protocole, qui n'était pas du tout celle des inséminations, même des inséminations avec Steam. Donc, mm-hmm. pour ces deux raisons, c'est vrai qu'à chaque fois, en fait, on était dans le truc, ben, allez, une de plus, ça sera probablement la bonne. Et en fait, une de plus, plus une de plus, plus une de plus, en fait, ben, on arrive à plus de 20 inséminations.
Ouais, et c'est énorme. Et comment vous avez géré l'échec ? Parce que je pense que au bout de, enfin, même déjà au bout de 2-3, c'est difficile. Alors, au bout de 20, ça devait être très difficile.
Au début, pas si mal que ça, puisque ça nous semblait relativement normal qu'on puisse échouer. Donc les premiers échecs, on rebondissait, on repartait de l'avant, on se projetait sur le cycle d'après.
Mmh.
Et après, c'est vrai qu'au bout de quelques échecs, ça commençait à être compliqué à vivre. Très rapidement, surtout avec l'entourage, en fait, ça a été assez difficile. Surtout avec l'entourage amical et familial qui commençait en fait à fonder leur famille.
Ouais.
Ça, et là, ça c'est ce qui a été le plus difficile en fait, d'être confronté à la réussite des autres. Mmh. Il faut savoir que voilà, durant tout notre parcours, je pense qu'il y a des couples qui ont eu 3 enfants en fait.
Oh là là.
Qui ont concrétisé trois projets, parce que notre parcours a duré au total 5 ans et demi. Donc, en 5 ans et demi, voilà, on a plusieurs couples d'amis ou de couples dans nos familles respectives qui ont eu 2 ou 3 enfants.
Ouais.
Et ça, c'est vrai que ça nous est très, 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 très mal de voir ces projets se concrétiser les uns après les autres et le nôtre s'embourber, en fait, stagner.
Ah oui, très, clairement, très parce que votre parcours au global a duré combien de temps ?
Donc 5 ans et demi.
Ans.
Donc là, on parlait d'Anaïs qui a fait une grosse vingtaine d'inséminations.
Mm-hmm.
Et ensuite, il y a eu moi qui ai fait des essais. Donc, tout de suite, des inséminations donc à Gand, en fait, hein, dans la clinique où on était.
C'est eux qui vous ont proposé de changer de...
Non.
Non,
non, c'est nous qui avons pris la décision parce que Anaïs était épuisée en fait.
Ouais, tu m'étonnes.
Elle était épuisée. Elle était épuisée surtout psychologiquement, un peu physiquement, mais surtout psychologiquement. Donc c'est elle à un moment qui a dit stop là, j'arrête et tu peux prendre le relais.
D'accord. Oui, donc en fait elle t'a donné le feu vert quoi.
Exactement. Exactement, c'est elle qui a décidé du moment où elle n'en pouvait plus.
Oui, mais elle a été résistante.
Ah oui, non, mais moi, j'ai toujours été hyper admirative, encore plus après, quand moi, j'ai vécu ce qu'elle a vécu.
Mm-hmm.
C'est vrai qu'initialement, moi, j'étais observatrice, hein, donc je vivais pas... Euh, je vivais pas les insé, je vivais pas les l'estime. Mm-hmm. Et donc c'est vrai qu'à posteriori, pour avoir vécu la même chose, notamment l'estime, je me dis que ça a été une warrior, quoi.
Oui.
Hyper hyper impressionnée de sa force et de son courage.
Oui, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'en plus de ça, en plus de tout ça, je pense qu'il faut aussi gérer la culpabilité de l'échec, de se dire que c'est son corps qui ne fonctionne pas, et donc aussi, du coup, la déception de l'autre.
Oui, exactement. Surtout que, bon, en parallèle de tous ces échecs, du coup, on a essayé de comprendre, en fait, pourquoi ça ne fonctionnait pas. Parce que toutes les chances étaient censées être de notre côté.
Mmh.
Et malgré tout, Anaïs n'est vraiment jamais tombée enceinte. Donc, il n'y a vraiment jamais eu un début de quoi que ce soit. Et donc, elle a fait tous les examens qu'on propose en cas d'infertilité.
Mmh.
Et tout s'est avéré négatif.
D'accord, donc ils n'ont pas réussi à mettre de mots sur son...
Non.
D'accord.
Non, on n'a jamais eu d'explication. Et du coup, voilà, c'est vrai que là, à partir de ce moment-là, Anaïs, comprenait pas et effectivement culpabilisait beaucoup. Pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, et puis elle s'en voulait vis-à-vis de moi aussi, en disant que c'est elle qui faisait échouer notre projet et qu'elle était désolée.
Mm-hmm.
Bon, bien sûr, elle y était pour rien du tout, mais effectivement, il y a eu cette culpabilité-là vis-à-vis de moi, en fait.
Oui, ce qui est compréhensible, mais ça n'a pas altéré votre couple, ou ça a joué?
Non, alors si, forcément, il y a eu quelques périodes un petit peu plus compliquées que d'autres, mais je pense qu'on a été quand même super solides, et depuis le début, notre phrase c'était on est une équipe, et on s'est toujours soutenus, et non, je pense que ça n'a pas altéré notre couple, ça l'a plutôt renforcé.
Oui, ça c'est quand ça fonctionne dans ce sens-là, c'est génial. Enfin, c'est génial.
Ouais.
C'est positif, on va dire.
Non, on était, on était une équipe, voilà, tout simplement.
D'accord. Et donc du coup, passage de relais, c'est toi qui prends le relais. On est en quelle année à peu près, tu sais à peu près situé?
J'ai plus vraiment en tête, mais en gros, Anaïs a fait un peu plus de 3 ans d'essai, je pense.
D'accord, ouais, c'est ça. Mais c'est énorme.
3 ans, bon, avec forcément quelques cycles où on n'a pas fait d'essai parce que vacances ou autre, mais voilà, mm-hmm. Au total 3 ans et demi. Ensuite, il y a eu une petite pause de quelques mois où on s'est mariés. Ah. Donc, je pense que durant six mois, donc il n'y a pas eu d'essai, ni pour elle, ni pour moi.
Mm-hmm.
Et ensuite, juste après le mariage, c'est moi qui ai pris le relais. Donc là, du coup, je ne sais pas en quelle année nous sommes, ça doit nous mener à... si, je suis bête, l'année de notre mariage, c'est 2017. Oui, comment oublier. Donc mai 2017, notre mariage, et je pense que été 2017, je commençais les essais de mon côté.
D'accord, toujours à Gand.
Oui, c'est ça, toujours à la même clinique.
D'accord. Tu as dû refaire tous les bilans. Du coup, forcément, c'est plus la même personne, donc tu as dû refaire tous les bilans initiaux.
Oui, voilà, ça allait les bilans médicaux, mais par contre, le dossier administratif et tous les rendez-vous, on n'a pas dû les refaire.
D'accord.
Ouais, alors, donc toi, ça allait plus vite pour mettre en route.
Oui, tout à fait. Et donc toi, tu commences les inséminations, tu réagis mieux qu'Anaïs ?
Non. Alors enfin, je réagis moins bien. Alors moi d'emblée, on a débuté avec une stimulation parce que du coup j'ai un problème hormonal, j'ai un syndrome des ovaires polykystiques.
D'accord.
Donc on n'a pas tergiversé d'emblée. Ça a été des inséminations stimulées.
Mm-hmm.
C'est vrai que moi d'emblée la stim, je l'ai quand même moins bien tolérée qu'Anaïs, surtout sur le plan psychologique en fait.
D'accord. Qu'est-ce qui te...
J'étais déprimée en fait.
D'accord. Oui. Non, c'est vrai que c'est une des conséquences possibles.
Ouais, j'étais anxieuse et très déprimée.
D'accord. Sur tous les cycles sur lesquels tu as fait de la stimulation ?
Peut-être pas les tout premiers, mais très rapidement, je pense au bout du troisième essai, ouais, ça commençait à être très compliqué.
D'accord. Du coup, tu évoques le fait que tu as fait donc plusieurs essais. Combien tu fais d'essais?
Alors moi, j'en ai fait une dizaine.
Oui, c'est toujours énorme.
Une dizaine, sachant... Oui, non, mais c'est clair. En sachant que au deuxième ou au troisième essai, je suis tombée enceinte.
D'accord.
Du coup, il y a une grossesse gémellaire. Oui. Et j'ai fait une fausse couche précoce.
Mmh.
Voilà. Et du coup, en fait, quand on tombe enceinte et qu'on fait une fausse couche, ben, je pense que c'est un peu pareil pour toutes les femmes. Mmh. On se dit, ben, ça a fonctionné, du coup, on a envie de recommencer rapidement et on se dit, ben, il n'y a pas de raison, ça va refonctionner, en fait.
Oui,
donc,
clairement.
À nouveau, voilà, on est parti dans cette idée-là de se dire, ben, ça a fonctionné une fois, donc, ben, on va recommencer, ça va bien finir par fonctionner.
Oui, en plus c'est vrai que bon pour le coup là t'avais l'indice de la première grossesse qui n'a pas abouti.
Exactement, oui.
Ça a dû être difficile pour vous de vivre cette fausse couche.
Oui. Oui, honnêtement, ça a été compliqué parce que c'est arrivé donc au bout de ça faisait déjà 3 ans et demi, 4 ans de parcours.
Mmh.
Donc déjà beaucoup de déceptions, beaucoup d'attentes, beaucoup d'investissements. Donc forcément, bah, quand ça fonctionne,
bah oui,
y a énormément d'espoir.
C'est ça.
Énormément de joie.
C'est
même si ça a été une fausse couche précoce, il y a eu quelques semaines où on s'est projeté.
Mm-hmm.
Et du coup, bah, ouais, ça a fait très très mal.
Je pense que bon, toutes les fausses couches de toute manière sont douloureuses, hein, mais là, dans la mesure où il y avait un parcours, enfin il y avait un historique très dur avant, ça a dû être, la descente a dû être très difficile.
Ouais, exactement.
Mmh.
Mais on s'est relancé très très rapidement.
D'accord.
Je crois qu'on a laissé passer un cycle et on a repris très très vite après la fausse couche.
D'accord.
Et donc, au total, ce que je disais, il y a eu une dizaine d'inséminations aussi. Ouais.
D'accord.
Donc, au total, pour le couple, plus d'une trentaine.
Plus d'une trentaine, et donc sur, en gros, 5 ans de parcours.
Du coup, alors moins, ouais, c'est ça, enfin non, 4 ans et demi ou 5 ans, parce qu'après, du coup, on s'est quand même décidé à faire une FIV.
Oui. Ce qu'ils auraient dû peut-être vous imposer ou vous proposer plus tôt.
Ah mais oui, non mais très clairement, je pense qu'on avait besoin d'un avis médical qui nous impose quelque chose, qui nous laisse pas le choix en fait et qui nous guide et nous conseille, ce qui est finalement le rôle hein, des équipes qui nous accompagnent.
Complètement. C'est...
Je pense que c'était pas à nous de décider en fait et c'était à des gens dont c'est le métier de nous dire à un moment non mais là c'est stop. Finance ou pas finance, peur ou pas peur, il faut faire une FIV quoi. Il faut se lancer dans la FIV.
Après c'est vrai que peut-être que ce qui les a arrêtés c'est de pas mettre de mots sur l'infertilité des deux côtés finalement puisque enfin après
peut-être.
Je sais pas si on peut qualifier d'infertilité ce qui vous est arrivé à toutes les deux, c'est peut-être juste la faute à pas de chance, mais en tout cas effectivement je pense que c'est peut-être ce qui les a arrêtés.
Je ne sais pas. Finalement, on n'a jamais eu l'occasion d'en discuter parce que finalement, après la FIV, en fait, on l'a pas fait chez eux.
D'accord.
On a changé de clinique. On est parti plus au sud. On est parti en Espagne en fait pour la FIV.
D'accord.
Donc, on n'a jamais eu l'occasion finalement de débriefer a posteriori de ce parcours un peu chaotique chez eux en fait.
Et du coup, pourquoi l'Espagne et pas une autre clinique en Belgique?
Parce que on a eu un troisième avis en fait. Donc on avait notre gynéco en France qui nous suivait.
Mm-hmm.
On avait l'équipe de Gand et on a rencontré en fait une autre gynécologue en France,
mm-hmm,
qui elle tout de suite a mis le holà et a dit, elle a employé le terme de maltraitance médicale. Ce qui a été un vrai électrochoc pour nous.
Oui, mais je pense qu'il fallait le poser ce terme. Oui,
et oui. Parce que en fait, au moment où on la rencontre, cette gynéco, on était en train de partir sur la FIV dans la clinique où on avait fait les incès, en fait.
D'accord.
Et elle a dit non, ben là, je pense que vous faites fausse route. Il faut changer, en fait. Il faut aller en Espagne. elle nous a vraiment vanté les mérites de l'Espagne, leur taux de réussite, et elle nous a vraiment vraiment conseillé d'arrêter avec Gand et de basculer sur l'Espagne.
D'accord, ok. Et votre gynéco initial ne vous avait pas alerté sur le parcours, enfin on n'avait pas pris en tout cas
le
la
gynéco
hauteur.
En France.
Oui, le premier.
Non.
Celui que vous suivez.
Non, alors lui, c'est, bon, alors il est top. Hein, il nous a vraiment toujours soutenu, toujours accompagné, mais il s'est vraiment tout de suite positionné comme moi. J'exécute en fait. Voilà, oui. C'est Gand qui est le chef d'orchestre en fait. C'était le terme qu'il employait. Et moi, je fais ce qu'ils me disent de faire. Donc en fait, il se mettait vraiment en retrait, au second plan. Il donnait très peu son avis. Mm-hmm. Voilà, c'était sa façon de procéder. C'est vrai qu'à nous, à plusieurs reprises, on a quand même sollicité son avis. Mmh. Et il ne nous donnait pas vraiment de réponse très claire. Et à plusieurs reprises, en fait, lui, sa réponse, ça a été « Moi, si j'étais vous, j'attendrais que ça passe en France. »
Oui.
Donc, voilà les conseils de notre Donc non, donc lui, nous a jamais vraiment orienté plus que ça vers la FIV non plus, en fait.
D'accord. Et du coup, donc parcours en Espagne, donc pour le coup orchestré par votre deuxième gynéco, elle vous a envoyé vers quelle clinique?
Alors,
vous envoyé avec une précise?
Oui, avec Eugène en fait.
Oui, tout à fait.
Eugène, qui sont implantés dans plusieurs villes d'Espagne. Nous, on a choisi Barcelone parce qu'on aimait bien cette ville. Mm-hmm. Mais ouais, elle nous a orienté vers Eugène. Alors, je crois qu'elle nous avait proposé un autre nom de clinique. J'ai peur de me tromper, mais Ivy, non, c'est
oui,
ça?
Oui, ça existe, tout à fait. C'est une qui existe.
Voilà, donc elle nous avait parlé des deux cliniques. Nous, on a fait notre petite recherche sur Internet et on a choisi Eugène pour finir.
D'accord. Et donc, vous voilà partie en Espagne avec, je suppose, votre dossier médical sous le bras.
Oui, qui finalement était très pauvre en fait. C'est ça aussi qui a un peu interpellé la gynéco en France, c'est que elle nous a dit mais en fait vous avez rien à part vos factures, vous avez rien à me présenter. C'est-à-dire que elle nous a expliqué que normalement, il devait y avoir des informations sur le sperme, la qualité du sperme,
oui,
etc., etc. Mmh. Et en fait, nous on avait aucun retour en fait.
D'accord.
On avait juste effectivement les factures correspondant à chaque essai, mais pas d'informations médicales en fait.
D'accord, donc ça veut dire que même lors de votre suivi, quand tu devais faire des retours de monitoring pour le suivi de l'ovulation, tu n'avais pas de retour écrit.
Ah, alors ça c'était donc ça du coup ça se faisait enfin c'était notre gynécologue français en fait ça.
Oui,
qui faisait tout ce qui était Et non, enfin, alors ça on aurait pu lui demander parce que pour le coup en France il notait bien, à chaque fois les prises de sang, les résultats, les mesures quand ils faisaient les échos. Mm-hmm. Mais ça c'est vrai qu'on n'a pas, on l'avait pas demandé, mais par contre les résultats des inséminations, ça par contre on avait rien du tout à Gand.
D'accord.
En
fait. D'accord.
Voilà. Bon, par contre, bien sûr, on avait tous les résultats, notamment l'hystérosalpingographie d'Anaïs, voilà, tous les tests, en fait, finalement, plus pour rechercher les raisons de l'infertilité. Tous ces résultats, on les avait.
D'accord.
Donc, on les a présentés, effectivement, à Barcelone.
D'accord. Et alors, quel a été leur discours à eux, du coup?
Un discours... très bienveillant, très rassurant, en disant bon on va prendre le relais. Je pense qu'ils ont bien vu dans quel état de souffrance on était. Mm-hmm. Et ils sont tout de suite voulu très très bienveillant et très encourageant, en disant on va repartir sur quelque chose de nouveau, on va reprendre tout à zéro. Donc voilà, ils ont épluché tous les examens qui avaient été faits. Mm-hmm. Donc quelques examens complémentaires pour Anaïs, notamment une hystéroscopie avec des biopsies et un karyotype pour vraiment aller au bout du bilan d'infertilité.
D'accord.
Donc ça s'est avéré également négatif.
D'accord.
Et voilà, et donc ensuite on a pu très très rapidement débuter le protocole de FIV.
Ok. Donc vous êtes parti vers... Enfin, vous avez débuté sous combien de temps? À peu près 2-3 mois, quelque chose comme ça?
Moins, je pense.
D'accord.
On s'est déplacé. On a le choix pour le premier rendez-vous de le faire par Skype ou d'y aller. Mm-hmm. Nous, on a préféré y aller. Mm-hmm. Et suite à ce rendez-vous, donc il y avait l'hystéroscopie à faire. Je crois qu'Anaïs a pris un rendez-vous très rapide. Et je pense qu'on a pu débuter un mois et demi ou deux mois après, quoi.
Ouais, donc,
et on aurait pu débuter même encore plus tôt. Hein. Les délais sont très très courts. Hein.
Oui.
Donc c'est parce qu'il y a eu ces examens complémentaires entre deux que c'est un tout petit peu décalé, mais c'est extrêmement rapide. Il n'y a pas d'attente, en fait.
D'accord. Et le protocole de FIV, ouais, s'est bien passé ?
Oui, très bien. Bon, bah forcément, c'est lourd, mais ils étaient extrêmement clairs dans leurs explications. C'était hyper fluide sur la façon dont il fallait procéder. Donc ça s'est très bien passé. Après, qu'on a eu des petits soucis durant le parcours, dans le sens où au moment où Anaïs s'est stimulée, en fait on devait aller à Barcelone, elle devait être ponctionnée et normalement on devait faire le transfert quelques jours après.
Mm-hmm.
Et en fait ça n'a pas pu se faire de cette façon-là parce que en fonction de tels résultats biologiques, ils nous ont tout de suite dit, on va pouvoir faire la ponction, mais le transfert ne sera pas possible parce que Anaïs n'est pas dans les conditions optimales pour recevoir un transfert.
D'accord.
Voilà, donc ça, pareil, ça a un petit peu repoussé à nouveau les choses.
Ouais.
Et donc, on a dû fractionner le protocole, en fait.
D'accord. Et là, la déception n'a pas été trop importante.
Bah si, mais finalement une de plus, une de moins, je trouve qu'on était un petit peu rodés.
Mm-hmm.
Si, c'était forcément une nouvelle déception, mais voilà, on n'avait pas vraiment le choix que de continuer à avancer. Donc voilà, Anaïs a fait la ponction, on a finalement eu 4 embryons.
Oui.
Ouais, 4 embryons, et donc on est revenu en France. Et ensuite, voilà, on avait reprogrammé assez rapidement un premier transfert, en sachant qu'on avait décidé à chaque fois de mettre 2 embryons.
D'accord.
Donc, le premier transfert a échoué, et le deuxième transfert a également échoué. Voilà.
Okay.
Et donc, ça nous amène, en termes de date, fin août 2019.
Oui, donc l'échec, en fait, il y a 6 mois. Enfin, il y a... Oui, c'est ça, il y a 6 mois, il y a un an, pardon, excuse-moi.
Oui, c'est ça, exactement.
Oui,
c'était il y a un an, exactement.
D'accord.
Oui, c'est donc, ça, exactement. Oui, oui.
Ouais, donc, votre parcours, à ce moment-là, vous continuez le parcours ? Vous avez pour projet de passer sur une deuxième FIV ou là, vous en avez juste
non.
assez ?
Là, on est au bout. Mm-hmm. On n'en peut plus, elle comme moi. Et là, à ce moment-là, on dit que c'est stop la PMA. On ferme pas totalement la porte, mais on se dit qu'on va pas s'y remettre tout de suite, quoi.
D'accord.
Donc là, fin août 2019, pour nous, c'est fini avant bien longtemps.
D'accord. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes donc les deux mamans d'un petit Gustave.
Oui. Donc, oui. Donc, en fait, il faut revenir un petit peu, du coup, en arrière dans notre histoire.
Mm-hmm.
Parce que, donc, après 2 ans d'échec de PMA, on a commencé à évoquer du coup la possibilité d'adopter.
Oui, donc finalement, vous aviez déjà en tête une parentalité alternative, enfin une possibilité alternative.
Oui, tout à fait.
Mmh.
Oui, oui, oui. Bah, en fait, toutes les deux, ça n'a jamais été vraiment une finalité, en fait, la grossesse, être enceinte.
Mmh.
On n'a jamais fantasmé voilà, le fait d'être enceinte. Donc, c'était absolument pas un problème d'envisager d'autres parentalités, en fait. Donc, la parentalité adoptive,
d'accord,
c'était tout à fait une option et très rapidement.
D'accord. Et donc, c'est ce que vous avez lancé
Oui, donc, alors tout en continuant, hein, on n'a jamais arrêté, du coup, le parcours PMA. Mais donc, ça, à partir de 2 ans de parcours, ça a été donc 2 parcours parallèles, en fait. Donc, au bout de 2 ans, voilà, on a débuté les démarches.
Mm-hmm.
Et donc, c'est le pourquoi de notre mariage, entre autres.
D'accord, ok.
Donc, on a su très rapidement qu'il fallait être un couple marié pour pouvoir adopter en France.
Pourtant, vous auriez pu adopter aussi en tant que femme seule.
Oui, alors ça n'a jamais été une option pour nous, parce qu'on voulait vraiment assumer de A à Z, le fait qu'on a adopté en tant que couple.
D'accord.
Et en tant que couple lesbien, et voilà, on voulait pas avoir à raconter des histoires, on voulait pas, quand le service social venait à la maison, cacher les photos. Donc non, d'emblée, on s'est dit, c'est soit notre projet de couple, ou soit c'en est pas, en fait.
Oui, et puis c'est sûr que c'était important aussi pour avoir la reconnaissance de la deuxième maman, a posteriori, je pense que c'est plus délicat.
Ouais, exactement. Donc donc tout de suite, c'était toutes les deux.
Et alors, comment ça se passe? Enfin, vous avez pris des renseignements, enfin, vous êtes orienté vers quoi? Comment? Enfin, c'est rare comme
parcours. Des recherches. Oui, en fait, c'est des recherches internet. Donc, très rapidement, on apprend que ça se passe par département. Mm-hmm. Donc, chaque département a sa page web, en fait, où il y a toutes les informations sur comment constituer son dossier. Mm-hmm. Donc, voilà, quelles sont les pièces à fournir. Pour lancer le projet. Et donc, la première partie, en fait, c'est l'obtention de l'agrément.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc ça prend donc, entre 9 mois et 1 an.
D'accord.
Où, donc, après avoir donné toutes les pièces demandées, il y a pas mal de réunions auxquelles il faut assister, des réunions d'information. Donc, qui sont parfois un peu une douche froide. Alors, nous, ça a été, mais notamment, il faut savoir que, ça, on ne le savait pas tout de suite, mais que pour adopter un nouveau-né, mm-hmm. il faut avoir moins de 42 ans. Donc,
d'accord.
nous, on était largement dans les clous, parce que quand on a débuté, je pense qu'on devait avoir, je sais pas, de 32, 33, mm-hmm. 32, 33 ans, tous les deux. Mais je sais qu'à des réunions d'information, on a vu des personnes s'écrouler, en fait, à l'annonce de cet âge-là.
Ah oui.
Parce que, il y avait plein de couples, probablement du coup âgés de plus de 42 ans, qui avaient fait les demandes de nouveau-nés et qui du coup, ne pouvaient pas, en fait.
Ah oui, oui. Et oui, puis je suppose que ça, c'est non négociable.
Non, c'est non négociable. Ça, c'est des critères super stricts.
D'accord.
Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure des réunions, il y a pas mal d'informations qui arrivent. Durant ces mois, donc en parallèle des réunions d'information, du coup, il y a pas mal de rendez-vous. Donc, il y a un rendez-vous avec une psychologue, un rendez-vous avec un psychiatre et un rendez-vous avec un médecin aussi. Alors, il y a une liste de médecins agréés, en fait, pour vérifier, en fait, qu'on est apte à être parent adoptif. Mmh. Donc, il y a pas mal de rendez-vous à enchaîner, les réunions d'information en parallèle et toute l'enquête sociale aussi. Oui, j'allais oublier, mais c'est quand même un point super important.
Oui, donc, c'est la fameuse enquête qui permet d'avoir ce fameux agrément.
Exactement. Ouais, eux, ils font tout un compte-rendu de tous nos échanges, un compte-rendu de la visite de la maison. Donc, c'est hyper précis. Hein. Ils sont très très précis dans les questions qu'ils posent. Mmh. Donc ça, il y a eu un rendez-vous dans les locaux, dans leurs locaux, le service social, mmh. et ils sont venus 3 fois à la maison.
3 fois, waouh.
Ouais, 3 fois à la maison. Donc, déjà pour échanger, mmh. Et puis donc ensuite pour matériellement aussi faire un petit peu le point sur où on vit, comment on vit. Est-ce qu'on a déjà un petit peu anticipé l'arrivée d'un enfant, oui. même matériellement, hein, ils nous posent des questions sur, en gros, la voiture, le jardin, est-ce qu'il y a une pièce pour l'enfant, voilà, tout ça, c'est des éléments positifs, en fait, si on est capable de les présenter.
Oui, tout à fait. Bon, après, je pense que tu peux aussi éventuellement préciser que tu as un projet de déménagement s'il y a un enfant qui arrive, si ton appart est...
Oui, tout à fait. Tout à fait, mais c'est vrai que quand on fait visiter la maison et qu'on ouvre la porte en disant ça c'est la chambre du bébé, c'est vrai que c'est plutôt un point positif, quoi.
Oui, ça ouais. projette bien.
Oui, exactement.
Et donc vous obtenez cet agrément ?
Oui, c'est ça. Donc ça a mis un petit peu plus de temps que d'habitude. Alors je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas au bout d'un an, on a obtenu l'agrément.
D'accord. Et sans difficulté du fait de votre couple
non,
qui.
Non, absolument pas. Alors, clairement, pour l'obtention de l'agrément, il n'y a vraiment aucune difficulté.
D'accord.
Ça, c'est dans la loi.
Oui.
Et donc, ça, il n'y a aucun souci pour obtenir l'agrément. On est vraiment considéré comme un couple lambda.
D'accord.
C'est après que ça se corse, en fait. Oui.
Et donc, c'est quoi l'après-l'agrément ?
Alors, après l'agrément, l'après-agrément, en fait, surtout, il ne faut pas du tout se reposer sur ses lauriers. Mmh. Il ne faut surtout pas attendre voilà, en se disant bah, « j'ai eu l'agrément, j'attends qu'on m'appelle ». Donc, ce n'est surtout pas comme ça qu'il faut fonctionner.
D'accord, alors que c'est pourtant comme ça.
Ouais, c'est comme ça qu'on l'imagine, en fait. Voilà, mais c'est pas, en pratique, c'est pas du tout comme ça qu'il faut l'aborder. En fait, il faut clairement montrer sa motivation. Mm-hmm. Il faut nourrir son projet, en fait.
D'accord.
Donc, nourrir son projet, c'est se renseigner tout le temps sur la parentalité adoptive. Mm-hmm. La travailler dans le couple et la travailler au travers de voilà de manuels, de livres, de documentaires, de films, de séries, enfin tout ce qui peut avoir un lien de près ou de loin avec l'adoption.
D'accord.
Il faut également participer à des réunions, de nouveau voilà, des nouvelles réunions donc sur des thèmes plus ou moins variés. On a notamment, je me souviens bien de réunions où c'était en fait animé par donc ça s'appelle la voix des adoptés et animé par des adoptés en fait, devenus adultes, mm-hmm. mais des personnes adoptées qui du coup témoignent sur leur expérience.
D'accord.
Plus ou moins difficile, plus ou moins douloureuse. Ouais. Donc c'est vrai que rapidement on est dans le vif du sujet et c'est vrai qu'à certains moments on a un petit peu déchanté de façon globale en fait hein, sur l'adoption parce que il y a eu quand même dans les témoignages quelques retours d'adoption compliquée en fait, en sachant que ces retours-là c'était plutôt pour des enfants qui ont été adoptés plus mm-hmm. âgés, parce que nous on a fait la demande pour un nouveau-né, là c'était plutôt des retours d'enfants qui ont été adoptés à des âges plus tardifs et des adoptions internationales.
D'accord.
Donc avec du coup la question aussi de la culture, etc. Mais donc c'est vrai que ouais qu'il y a eu pas mal de réunions un peu qui nous ont pas mal questionnés.
Bah oui, tu m'étonnes.
Mais pour autant, on a toujours continué. Ça nous a jamais découragés. Quoi.
Oui, faut...
En tout cas, sur la question de l'adoption et de la parentalité adoptive.
Il faut aussi une sacrée force hein, sur ce parcours-là mental pour pouvoir continuer. Parce que c'est vrai que l'impression qu'on en a, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup... qu'on essaye beaucoup quand même de nous dissuader au bout d'un moment.
Oui, exactement. Bah, ouais, c'est ce qu'on se disait avec Anaïs, c'est que c'est vrai que parfois on sortait de ces réunions, on était là, waouh. Est-ce que vraiment on va continuer ? Mais après, je pense que c'est important hein, d'avoir ces retours-là et de pas du tout fantasmer l'adoption. Mmh. Et voilà, de pouvoir se poser les bonnes questions, se remettre en question. Mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de couples qui baissent les bras. Au fur et à mesure du parcours.
Ouais.
Au fur et à mesure aussi que les années passent hein, et qu'il n'y a rien qui se débloque, je pense qu'il y a pas mal d'abandon malheureusement.
Parce que c'est quoi le temps moyen d'une adoption entre le moment où tu as ton agrément ?
Alors, j'ai pas vraiment de chiffre en tête parce que c'est assez compliqué parce que en fait, ça dépend aussi du ce qu'on appelle la notice. C'est-à-dire, en gros, c'est ce le profil en fait d'enfant qu'on désire, enfin qu'on demande à l'adoption. Et en fait, chaque projet est extrêmement différent d'un projet à l'autre. Sur l'âge de l'enfant, surtout, est-ce que c'est une adoption en France, pupille de l'État, ou à l'international ? Est-ce que c'est des fratries ? Donc finalement, c'est difficile parce qu'il faudrait des chiffres pour telle notice, c'est-à-dire pour un enfant, pupille de l'État, nouveau-né, combien de temps il faut attendre, ou si on est OK pour adopter un enfant de 10 ans ou une fratrie. C'est vrai que les délais sont pas du tout les mêmes, en fait. Donc j'ai pas de chiffres en tête, mais en tout cas, c'est plusieurs années, ça c'est sûr. Et parfois, il y a souvent besoin de faire une deuxième demande d'agrément. Parce qu'il faut savoir qu'un agrément est valable 5 ans.
D'accord.
Et au terme de ces 5 ans, si on ne s'est pas vu confier d'enfant, il faut refaire tout le parcours.
D'accord.
Pour obtenir un nouvel agrément. D'accord. Et donc, il arrive que des couples arrivent au terme de ces 5 ans et doivent refaire le parcours. Et c'est seulement au terme du deuxième agrément, grâce au deuxième agrément, qu'il arrive
à avoir un enfant.
À devenir parent. Mais En gros, le chiffre que moi j'ai retenu, c'est que 10% des demandes d'adoption aboutissent.
10%, c'est rien du tout.
Voilà, 10%. Alors tout le monde, tout confondu, hein, homo, pas homo. Voilà, donc 10%. À partir du moment où on débute et qu'on obtient un agrément, on sait qu'il y aura que 10% des personnes qui iront jusqu'au bout, en fait.
D'accord, oui, donc c'est 10% entre abandon de la part des parents et abandon et pas d'enfant disponible de la part de l'administration.
Exactement.
D'accord.
Oui, exactement. Ouais.
Et tout à l'heure, tu parlais de notice. Vous avez le choix. Alors, c'est horrible de dire comme ça, mais vous pouvez choisir quel type d'enfant vous désirez, c'est ça ?
Oui, alors en fait c'est un profil, donc alors la notice, donc c'est surtout l'âge. Mm-hmm. Donc nous on avait fait une demande pour un enfant entre 0 et 3 ans. Mm-hmm. Ensuite donc on peut même préciser si on veut le sexe de l'enfant.
D'accord.
On peut préciser l'origine ethnique. Mm-hmm. On peut préciser le nombre d'enfants, parce qu'il y a des couples qui souhaitent adopter mm-hmm. des fratries. Et il y a toute une partie très importante sur est-ce que on souhaite un enfant avec ou sans particularité. Donc, mmh. En gros, ça veut dire avec ou sans handicap.
D'accord.
Et en sachant que là, donc c'est extrêmement large, hein, la liste des handicaps. Mmh. Et donc, quand on s'ouvre à la possibilité d'un enfant à particularité, il faut être extrêmement précis sur le type de handicap et de particularité entre guillemets, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas.
D'accord.
Parce que moi, je le raconte souvent, mais on a su, a posteriori, par exemple, qu'un souffle au cœur, c'est considéré comme une particularité et un handicap, en fait.
D'accord.
Un diabète, nous, des pathologies qui, finalement, nous semblent extrêmement légères. Alors, je ne dis pas que le diabète, c'est léger, mais en tout cas... sur lesquels nous, ça n'aurait pas du tout été un frein, mais c'est vrai que quand on me l'a présenté au début, c'est en gros, vous cochez handicap par handicap. Et nous, quand on entendait handicap, on se disait handicap, gros handicap, quoi, handicap moteur, la nécessité des soins, un accompagnement, et probablement peut-être un développement qui sera pas celui d'un enfant habituel quoi. Donc voilà, donc finalement ça c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas eu beaucoup d'informations initialement et ça on le regrette un petit peu parce que peut-être qu'on aurait pu ouvrir tout de suite à des particularités.
D'accord.
Mmh. Voilà.
D'accord.
Donc voilà, donc c'est ça la notice et en sachant qu'elle peut évoluer la notice, hein, donc à tout moment on peut demander à modifier des éléments de la notice.
Et cette notice, est-ce qu'elle est... Parce que bon, je suppose que plus tu réduis plus tu resserres tes choix et plus tu réduis le nombre d'enfants, le nombre d'enfants
exactement.
Disponibles. C'est, j'aime pas les mots que j'emploie.
Tout à fait.
Voilà.
Oui, non, c'est vrai que c'est délicat, mais oui, c'est ça. Voilà. On se comprend.
Complètement. Et cette notice-là, par contre, est-ce qu'il y a des contraintes liées à ta situation de couple, ton âge ou a priori, tu as parlé des nourrissons pour les personnes de plus de 42 ans. Je suppose qu'il y a des contraintes aussi.
Non, moi, je pense que la seule limite, c'est ça. Je pense que c'est plus de 42 ans, on ne peut pas adopter de jeunes enfants. Mm-hmm. Après, je pense que je n'ai pas en tête d'autres limites, en fait.
D'accord.
Et surtout l'âge, voilà.
D'accord. Ouais. Et alors pour vous, comment ça se passe donc suite à ces réunions vous avez donc on sait aujourd'hui.
Alors l'issue. Mais donc en fait très rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a compris que en tant que couple homo, ce serait très compliqué, voire impossible. Mm-hmm. On a commencer à poser des questions quand on croisait des personnes en disant mais sinon, est-ce que vous avez déjà confié des enfants à des couples homo? Comment ça se passe dans le département? Et tout de suite, on voyait on va pas vous cacher, c'est compliqué. Donc voilà, on a eu juste une notion qu'il y avait un couple de femmes qui avait pu adopter un enfant, mais en sachant que cet enfant avait un handicap.
D'accord.
Et donc, en tout cas, dans le département du Nord, c'était le seul, a priori, la seule adoption qui avait été validée.
D'accord.
Et à ce moment-là, je pense que même si on considère sur le plan national, je pense que ça se comptait sur les doigts d'une main ou de deux mains. Mm-hmm. Il y avait eu donc quelques adoptions donc, d'enfants avec handicap ou d'enfants plus âgés ou des fratries. Mmh. En tout cas, des nouveau-nés sans particularité, je pense qu'il y en avait eu très, très, très peu. Et uniquement dans le département de l'Île-de-France.
Oui. Et là, ça vous a pas découragé ou fait changer d'avis sur...
Alors, si, forcément, on y croyait très très peu. Hein. Nous, voilà, ça nous semblait être complètement utopique, mais bon, il y avait quand même une petite flamme, un petit espoir qui nous faisait dire qu'il fallait pas baisser les bras. Et puis, je pense ce qui nous aidait aussi à pas être complètement découragé, c'est qu'en parallèle aussi on avait la PMA, donc à chaque fois on se disait bon bah si ça fonctionne pas, ça marchera, voilà.
Oui.
Si l'adoption ça vient pas, et ça viendra forcément pas. De toute façon la PMA ça va marcher.
Oui,
quoi.
Vous aviez deux produits qui se contrebalançaient en fait.
C'est ça, exactement. Donc voilà, donc de toute façon depuis le début on avait bien conscience que ça allait être très compliqué, voire mission impossible, mais on a continué. Et là, par contre, où ça, on a pris vraiment conscience qu'on n'était pas du tout sur un même niveau d'égalité que les autres couples, c'est qu'il y a eu deux expériences très très douloureuses. Mmh. La première, ça a été une conférence qui a été tenue par un neuropsychiatre de renom, vraiment quelqu'un de brillant, et qui s'est publiquement et ouvertement prononcé en fait sur l'adoption homoparentale.
D'accord.
En disant que lui s'y opposait, qu'il était absolument pas d'accord avec
ça. Lors d'une réunion de...
En sachant que... Ouais, c'est ça, une réunion publique. Alors, je sais pas, on était des centaines de personnes dans la salle, hein, donc des postulants à l'adoption, mais aussi des acteurs, en fait, des personnes qui décident, en fait,
oui.
de l'apparentement. Donc, c'est des personnes qui choisissent tel couple pour tel enfant, donc
oui, et qui donc sont
donc des décisionnaires qui voilà qui étaient présents dans la salle, et là on s'est dit mais c'est pas possible en fait. Et juste pour l'explication, enfin ce que ce neuropsychiatre neuropédiatre pardon avance, c'est que en fait la filiation ne peut pas être établie si l'enfant ne peut pas fantasmer, enfin ne peut pas imaginer l'acte originel en fait.
D'accord. Bon, c'est particulier comme.
Voilà, donc c'est ça son explication. Voilà, donc en gros, s'il peut pas imaginer ses parents en faisant l'acte d'amour pour l'enfanter, s'il peut pas fantasmer ça, il pourra jamais créer de lien de filiation.
D'accord, oui, c'est une vision très particulière et très rétrograde.
Voilà. Alors en sachant que du coup. Pour lui, par exemple, une femme seule ou un homme seul peut adopter parce que cet acte originel, cet acte charnel peut être fantasmé parce que la place est laissée libre, en fait.
D'accord, oui, bon, c'est quand même pas très très cohérent.
Voilà jusqu'où le raisonnement
oui,
va.
D'accord.
Voilà, donc en tout cas, c'était son discours. Et ça, pour le coup, ça a été hyper violent.
Oui, ben, tu m'étonnes.
Parce qu'en sortant de là... Moi, je me suis dit, même si les médecins s'y mettent, c'est bon, quoi. On a zéro chance. Anaïs a balayé ce truc en disant, on s'en fiche, on continue.
Elle a une force de caractère incroyable.
Oui, elle est incroyable. Par contre, donc voilà, le deuxième événement très douloureux, c'est que on a un couple d'amis hétérosexuels qui a débuté en fait le parcours un peu après nous. Donc, je dirais le parcours d'adoption. Hein. Mm-hmm. Six mois, un an après nous. Donc, ils ont eu l'agrément un petit peu plus rapidement que nous, quelques mois moins. Donc, ils ont un peu réduit, on va dire, le délai qui nous séparait. Mm-hmm. Mais il se trouve qu'ils ont eu très rapidement un petit bébé. On leur a confié très rapidement un petit bébé,
d'accord.
Un petit garçon. Donc au bout de un an et demi après l'obtention de l'agrément, ce qui est extrêmement rapide.
Oui, c'est clair.
Donc ils nous ont annoncé ça, forcément des sentiments mêlés, beaucoup de joie pour eux qui attendaient ça depuis très très longtemps, mais aussi voilà beaucoup de peine pour nous.
Bah oui, bien sûr.
D'autant plus que voilà on avait l'impression que bah voilà ils étaient arrivés après nous et que ils réussissaient et concrétisaient leur projet avant nous.
Oui.
Donc ça, c'était déjà difficile à accepter. Et en plus, au moment où elle nous a annoncé, elle nous dit, bah voilà, les filles, je sais pas si je dois vous le dire, mais voilà, la psychologue qui nous a un peu encadré dans notre parcours, on leur a parlé de vous. Et en gros, elle nous a répondu que bah faut pas que vos amis se fassent des idées, parce que dans le Nord, tant qu'on a un papa et une maman, ce sera un papa et une maman.
Ok.
Voilà.
Et alors pour...
Donc là, voilà.
Bah oui,
donc là, on s'écroule.
C'est clair.
Là, il y a un mélange de, bah, de tout, hein, comme d'habitude, de tristesse, mais surtout de colère, en fait. Un sentiment d'injustice extrême.
Oui.
Et là, on ne peut plus nous arrêter, quoi. Là, on s'est dit, OK, faut qu'on en ait le cœur net, là. De toute façon, si effectivement, ça mène à rien, bah, faut aussi qu'on arrête, quoi, parce que ça demande aussi beaucoup d'investissement.
Oui, bien sûr.
Donc, de là, on a sollicité des rendez-vous. Mm-hmm. Donc, on a sauté. Solliciter un premier rendez-vous auprès de bénévoles d'une association voilà, qui est hyper impliquée, hyper connue dans le domaine de l'adoption. Mm-hmm. Et moi, voilà, je suis arrivée, on est arrivé au rendez-vous, et moi, d'emblée, j'ai posé la question, voilà, est-ce que notre projet en tant que couple homo aujourd'hui, selon vous, dans le département du Nord, est viable? Est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est pas utopique? Et là, tout de suite, ils nous ont répondu, bah, revenez dans 20 ans.
Dans 20 ans, d'accord.
Voilà. Donc, ça. Donc ils nous ont répondu, donc en gros, ouais, le département n'est pas prêt, revenez dans 20 ans. Voilà, donc réponse au moins très honnête et très claire.
Oui, au moins, oui.
Et donc là, on s'est laissé en fait un dernier rendez-vous où là, on a sollicité en fait une personne de l'équipe technique en fait du département. Mm-hmm. Où on s'est dit, voilà, on a besoin d'un dernier non, d'un dernier stop pour abandonner notre projet, en fait.
Oui.
Et en fait, il se trouve que ce rendez-vous ne s'est absolument pas déroulé comme on l'imaginait. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a finalement rencontré une femme incroyable, extraordinaire, qui tout de suite nous a mis hyper à l'aise, en nous faisant comprendre que le fait qu'on soit en couple homo, en fait, c'était absolument pas un frein. Mm-hmm. Il fallait qu'on s'enlève ses idées de la tête,
oui.
Que c'était une particularité, mais comme d'autres particularités. Mm-hmm. En fait, le rendez-vous s'est super bien passé, elle nous a rassurés. Et finalement, en fait, au-delà de nous rassurer, il se trouve que elle avait un petit garçon en tête, en fait, pendant ce rendez-vous.
D'accord.
Alors, bien sûr, elle ne nous l'a pas dit à ce moment-là, mais... Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'en sortant de ce rendez-vous, bon, déjà, on était hyper rassurés en disant, bah, finalement, ça vaut peut-être le coup de continuer à y croire, continuer à se battre. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on avait ressenti, en fait, au moment de cet échange, Anaïs comme moi, des choses, voilà, des choses un peu concrètes. C'est vrai qu'elle nous posait des questions très précises sur comment on avait travaillé notre parentalité. Mais est-ce qu'on serait prête, là, à accueillir un enfant? Est-ce qu'on est OK pour faire une attestation sur l'honneur de se rendre disponible 6 mois pour accueillir un enfant? Donc, des choses quand même assez, assez concrètes.
C'est ça, très concrète.
Ouais. Et c'est vrai que là, on s'est mis un petit peu à rêver et à se dire « Ouais, mais finalement, si elle nous posait ces questions, est-ce que tu ne crois pas que peut-être elle avait un enfant en tête ?» Bon, après, on s'est quand même un petit peu calmé parce qu'au vu de toutes les déceptions antérieures, on s'est dit « On ne va quand même pas s'emballer ». Et en plus là, à ce moment-là, en fait, ce rendez-vous, c'est début août 2019. Mmh. Et 15 jours, 3 semaines après, en fait, on retourne à Barcelone pour le deuxième transfert d'embryon.
Oui, tout à fait.
Donc on est encore dans le truc, en fait, PMA, FIV. Mmh. Donc voilà, donc on sort quand même de ce rendez-vous, en tout cas reboosté.
Ouais, tu m'étonnes.
Et un petit peu rassuré aussi sur le fait que notre couple aussi avait une valeur.
Bah oui.
Parce qu'à ce moment-là, on s'en prenait tellement plein la tête qu'on se disait, voilà, à un moment, on se remet en question, on se dit, s'ils ne veulent pas nous confier d'enfants, c'est que peut-être il y a une raison, peut-être qu'on ne fera pas des bons parents. Enfin, voilà, on est toujours amené en fait, à se remettre en question, vu que eux nous renvoient toujours cette image de, finalement, vous n'êtes pas aussi capable qu'un couple hétéro de rendre heureux un enfant.
Ouais.
Donc c'est vrai que parfois, surtout moi, j'ai été amenée à me poser la question, mais pourquoi ils pensent ça? Pourquoi? C'est qu'il doit bien y avoir une raison, il doit bien y avoir une raison. Bon, j'ai toujours pas trouvé la réponse.
Mais je pense qu'il n'y en a pas, en fait. C'est des préjugés.
Oui, non, mais voilà, je pense que c'est ça, il n'y a pas de réponse. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que ça nous pousse toujours à se remettre en question et c'est assez douloureux.
Oui, clairement.
Mais en tout cas, voilà, pour la première fois depuis bien longtemps, cette femme nous a redonné confiance. Voilà. Et donc, fin août 2019, le deuxième transfert d'embryon échoue. Donc c'est là où on décide de clôturer pour un certain temps le chapitre PMA. Et on se retrouve voilà, dans cette situation-là où du coup on n'a plus d'embryon, on décide d'arrêter les frais sur la PMA. Et on a le projet adoption en cours, mais avec du coup des discours un peu contradictoires. 99% des personnes qu'on rencontre qui nous disent que c'est pas possible, qu'il ne faut pas espérer, et... cette personne qu'on a rencontrée, qui nous a juste laissé entrevoir que peut-être ce serait possible, mais sans rien de concret, en fait. Voilà, sans garantie. Et là, en fait, on se dit, bah, c'est peut-être possible, mais pas tout de suite, quoi, parce qu'il faut savoir que là, en fait, on était à ce moment-là à 2 ans, un peu plus de 2 ans de l'obtention de l'agrément. Oui. Ce qui est extrêmement court, en fait, pour un parcours d'adoption. Donc là, on s'est dit, bon, ok, c'est peut-être pas terminé pour nous, pour l'adoption, mais quand même, quoi, 2 ans, il faut peut-être quand même pas rêver jusque-là, quoi. Et pourtant, début septembre, on a un appel de cette même personne qui nous dit tout simplement, voilà, on aimerait vous revoir pour refaire le point sur votre dossier. Et c'est tout. Elle raccroche, c'est moi qui l'appelle, donc j'en parle à Anaïs. Anaïs, là, elle explose et elle dit « Je te l'avais dit, ils ont un bébé, c'est sûr, on va être maman. »
Parce que ça ne fait pas partie du parcours classique, en fait. Il n'y a pas un rendez-vous régulier pour refaire le point.
Non.
D'accord.
Non. Alors, après, finalement, il n'y a pas de règles, en fait. On ne sait pas vraiment comment ça se passe. Parce que, alors, on avait quand même l'exemple du couple d'amis qui avait réussi à adopter quelques mois auparavant, mais on ne savait pas vraiment, en fait, comment ça se passait quand un projet se concrétisait. Donc, c'est vrai que cet appel, enfin, voilà, il questionnait, mais il, encore une fois, il n'apportait pas du tout de réponse concrète, quoi.
Mais Anaïs, elle avait l'air de quand même y croire plus que plus.
Ah oui, non, mais là, c'était... Ah non, mais Anaïs, elle le sentait, quoi. C'était en elle, elle le savait, quoi. Donc, bon, moi, j'ai essayé un petit peu de temporiser le truc, surtout qu'on avait 10 jours d'attente entre cet appel et le fameux rendez-vous pour faire le point. Et voilà, donc 10 jours d'attente, on n'en a absolument pas parlé, on en a juste parlé à nos parents et nos frères. Donc, ce rendez-vous arrive donc le 16 septembre. 2019. Et en fait, c'est le rendez-vous de notre vie, parce que on nous a effectivement annoncé qu'on avait été choisi pour être maman d'un petit garçon qui, à ce moment-là, était âgé de 5 mois.
Ah oui, donc vraiment...
En très bonne santé.
Ouais, le petit bébé comme vous voyez, quoi.
Ouais, le bébé de nos rêves, quoi.
C'est ça.
Donc là, voilà, il n'y a pas de mots, c'est complètement dingue, ce qui se passe pendant le rendez-vous. Beaucoup de larmes, hein, forcément, beaucoup de c'est pas possible. je pense qu'à ce moment-là, on avait encore beaucoup de mal à y croire et de toute façon, on n'y a pas vraiment cru jusqu'au jour où on a rencontré Gustave, mais voilà, un rendez-vous complètement fou, quoi, qu'on n'oubliera jamais.
C'est clair que c'est un peu le jour de la naissance, même si vous ne l'avez pas vu, mais c'est un peu le jour de la naissance pour nous, les parents biologiques, on va dire.
Ouais. Ou peut-être le jour du test de grossesse positif. Moi, je ne sais pas, parce que... Non, parce que là, nous, c'était clairement beaucoup plus concret qu'un test de grossesse positif.
C'est ça, mais il allait arriver, là.
Mais en tout cas, oui, c'était un jour incroyable. Et c'était surtout ces 5 ans et demi d'attente qui prennent fin, en fait.
Ouais.
C'est 5 ans et demi de souffrance, hein, parce qu'on a énormément souffert,
ouais,
qui prennent fin. et voilà, et là, à ce moment-là, c'était le début de notre nouvelle vie, en fait.
Bah oui.
Et là, c'était dingue.
Et vous avez pu voir Gustave ce jour-là, non,
pas du tout, en fait. Donc, quand il y a ce rendez-vous d'annonce, donc on a très, très peu d'informations. C'est voulu, hein. Donc, on sait simplement que c'est un petit garçon, une brève description physique, et qu'il a à peu près 5 mois.
D'accord.
Voilà. Et après, donc il y a plusieurs rendez-vous en fait qui s'enchaînent, qui arrivent assez rapidement, déjà pour refaire un peu le point sur nos émotions. Et après, au fur et à mesure en fait de ces rendez-vous, on a de plus en plus d'informations sur lui. On sait le 16 septembre, on sait juste que 10 jours après, on le rencontre en fait.
Ah voilà, oui voilà, donc t'as une notion de délai qui est quand même relativement courte finalement.
Très très court. Ah oui, là, c'est extrêmement court. Donc là, vous allez être maman et il arrive, enfin vous le rencontrez dans 10 jours. Donc préparez-vous quand même un minimum.
Oui, c'est clair.
Faut que vous ayez un petit peu quand même de quoi l'accueillir à la maison.
Oui, parce que du coup, tu le rencontres tu le rencontres chez toi, il te l'amène chez toi ou tu le rencontres
non,
sur...
Non, non. Non, en fait, on le rencontre chez sa famille d'accueil.
D'accord.
L'assistante familiale en fait qui s'occupe de lui depuis sa naissance.
D'accord.
Donc la rencontre se fait à son domicile.
D'accord.
Alors a priori ça dépend des départements parce que là j'ai eu un retour d'un couple qui est adopté dans un autre département, pas un couple homo mais un couple hétéro. Et a priori dans certains départements les enfants sont en pouponnière.
D'accord.
Et du coup, voilà. Donc les protocoles sont différents en fait d'un département à l'autre. Mais en tout cas, dans le Nord, c'est comme ça que ça fonctionne.
D'accord.
Donc la rencontre se fait voilà au domicile de la nounou en fait. Nous, elle se fait appeler nounou. On l'a toujours appelée nounou.
D'accord.
Donc ça, c'est le 27 septembre. Donc ouais, c'est ça.
C'est hyper court.
Un peu plus de 10 jours après. Ouais, c'est super court. Et en sachant que 48 heures avant cette rencontre, on a un petit album photo.
D'accord.
On a 5-6 photos de lui.
D'accord.
Depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, en fait, jusqu'au jour où on le rencontre.
D'accord.
Donc on a voilà. Donc on a finalement on met un visage sur lui que tardivement en fait. Donc pendant 8 jours, on se l'imagine en fait. Et donc on a un petit album photo et on nous donne aussi son prénom de naissance. Et c'est là où on fait le choix de garder ce prénom ou de changer, voilà, de choisir notre prénom. Nous on a fait le choix de changer, donc de le prénommer Gustave. Mais pareil, voilà, on sait dans un second temps comment il a été prénommé à la naissance.
D'accord, oui.
Voilà.
Et
après, donc à partir du jour où on le rencontre, bah déjà c'est fabuleux. Enfin, j'ai pas trop de mots.
Forcément.
C'est il y a tout qui se mélange. On a encore du mal à réaliser, je pense, quand on le rencontre. Forcément, on trouve qu'il est magnifique.
Forcément.
Que c'est lui et que c'est pas un autre et que c'est lui qu'on attendait, c'est lui qu'on a attendu pendant 5 ans et demi en fait.
Oui.
Et là, on essaye de trouver un peu du sens à tout ce qui s'est passé avant, pourquoi la PMA ça a pas marché, pourquoi la FIV ça a pas marché. Et aujourd'hui encore, on essaye, on aime se dire que c'est parce que Gustave il nous attendait. Et je pense que ça nous aide aussi à apaiser la douleur.
Oui, complètement. En tout cas, il se présente à vous pile quand vous tournez la page de la PMA.
Oui. Ah oui, est-ce que c'est un hasard, je sais pas, mais oui, c'est complètement étonnant. Enfin, ouais, c'est fou.
Ouais.
Au moment où on dit on arrête, et il arrive quoi, dans les 15 jours qui suivent.
C'est ça.
On a l'appel 15 jours après. Donc je sais pas si c'est vraiment un hasard.
Je pense qu'il vous a choisi ce petit bonhomme.
Ouais, je pense qu'il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ouais. C'est incroyable cette rencontre. Et ensuite, en fait, à partir du moment où on le rencontre, on retourne tous les jours en fait chez la nounou pendant une petite semaine pour faire ce qu'on appelle la semaine d'adaptation, où on apprend à se connaître, on apprend aussi à savoir comment il fonctionne, quelles sont ses petites habitudes, ses habitudes alimentaires, son bain, son sommeil, voilà. Donc et donc progressivement la nounou en fait nous passe le relais. Et je pense aussi c'est le moment où la nounou doit faire un travail de détachement en fait de cet enfant, parce que c'est pas évident du tout pour elle. Voilà, donc pendant une semaine, de 9h à 18-19h, on est chez elle. Mm-hmm. Et elle nous passe le relais, et petit à petit, elle s'efface. En fait.
D'accord.
Elle s'efface, et le 3 octobre, c'est elle en fait qui l'amène à la maison.
D'accord.
Voilà. Elle vient avec lui et elle lui présente son chez lui en fait, son nouveau, sa maison, son foyer. Mmh. Et elle lui parle beaucoup, elle lui explique beaucoup les choses. Mmh. Et quand elle sent que le moment est venu, elle s'éclipse.
Ouais.
Et là, voilà, notre vie à trois débute vraiment le 3 octobre 2019.
Ça a dû être fabuleux.
Ouais, c'était fou.
Ouais,
c'était beaucoup de joie, beaucoup de joie. Ouais. Beaucoup de soulagement aussi de mettre tout ça derrière nous et d'aller vers l'avant.
C'est ça.
Quoi.
Et de construire votre parentalité.
De débuter notre nouvelle vie. Exactement.
Et ça a dû être, ça a dû être intense aussi pour l'organisation, parce que du coup, vous avez dû annoncer à vos patrons, l'une ou l'autre, que une des deux prenait un congé d'accueil pour l'enfant.
Oui, exactement. Donc c'est très brutal.
Ouais.
Et donc c'est Anaïs en fait, hein, qui a pris dans un premier temps, donc quand on adopte, on a le droit à un congé adoption.
Ouais.
Donc qui est pris par l'un des deux parents ou qui peut être partagé.
Mmh.
En sachant que si on le partage, ça rajoute un petit délai supplémentaire. Mais si on ne le partage pas, c'est 10 semaines.
D'accord.
Donc en fait, c'est l'équivalent du congé maternité.
Exactement.
À partir de la naissance de l'enfant.
D'accord. Mmh.
Donc 10 semaines de congé adoption. Et ensuite, il est demandé par le service de l'adoption d'être au total 6 mois avec l'enfant.
D'accord.
Donc du coup, Anaïs a enchaîné sur un congé parental.
Mmh.
Donc effectivement, elle a annoncé ça. Et puis 5 jours après, elle n'était plus là. Quoi.
Vos patrons savaient que vous aviez ce projet-là ?
Oui. Oui, toutes les deux, oui, bien sûr, parce que de toute façon, au moment où on a fait, on faisait les PMA, on devait s'absenter, etc. Donc on a expliqué un petit peu le projet. Donc oui, enfin c'est surtout oui, ses collègues et sa cadre était au courant,
mm-hmm.
Donc c'était quand même une surprise,
mais
elle l'avait quand même, voilà, et elle l'avait déjà un petit peu évoqué, donc voilà. Et de mon côté, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas vraiment de hasard.
Mmh.
Il se trouve que j'avais démissionné en fait de mon poste de neurologue à l'hôpital.
Mmh.
Pour m'installer en libéral en novembre 2019.
Ah oui.
Et du coup, j'avais en fait un mois off en octobre pour préparer mon installation en libéral.
Ouais.
Donc voilà. Donc en fait, moi, j'ai rien eu à faire en fait.
Oui.
J'avais déjà ce mois libre. Mmh. Donc, qui était censé servir à autre chose initialement, mmh. mais du coup qui nous a permis de passer ce premier mois tous les trois.
Oh, ça, c'est génial.
Donc c'était génial, une chance inouïe de pouvoir avoir ce mois complet tous les trois réunis.
Bah oui.
Et voilà, et donc Anaïs a continué son congé parental pour une durée totale de 6 mois, donc jusqu'à début avril.
D'accord. Oui, donc elle n'a pas dû reprendre non plus tout de suite avec le confinement. À quoi que si elle est infirmière, pardon.
Ouais, si, elle a repris. Ouais, ouais. Si, elle a repris en pleine crise sanitaire.
Oui, ça n'a pas dû être simple.
Ouais, mais bon, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, pas de souci.
Ouais. Et donc aujourd'hui, ça fait donc 8 mois que Gustave est avec vous.
Exactement, ouais, ça fait 8 mois et on continue à apprendre la vie à trois.
Ouais.
Mais c'est génial. On adore cette vie de maman.
Mm-hmm.
Encore une fois, Gustave, c'était le petit garçon qu'on attendait vraiment.
Oui.
je dis toujours que si on m'avait demandé de décrire ou de dessiner le bébé de mes rêves, il aurait ressemblé à Gustave trait pour trait.
C'était lui.
Physiquement et dans le comportement. Quoi. Donc c'est vrai que ça le fait, quoi, tous les trois. C'est une évidence, en fait.
C'est, ouais. Ça se voit.
Il a vraiment trouvé sa place tout de suite. Je pense qu'il est super épanoui. Il est super épanoui et c'est un vrai bonheur de le voir évoluer et d'être aussi heureux, en fait.
Ouais.
C'est génial.
Oui, tu m'étonnes. Ça fait chaud à notre cœur de maman, ce genre de choses.
Ouais. Non, c'est bon, en tout cas, c'est une aventure et une expérience extraordinaire, l'adoption.
Mm-hmm.
On ne pensait pas vivre des choses aussi, aussi forte, vu que déjà on pensait pas que ça aboutirait. Mais c'est une expérience unique, vraiment.
Ouais.
Et ça vaut vraiment le coup d'aller se battre.
Faire tout ça. Et j'ai une question purement technique, mais quand ils te remettent le bébé, est-ce qu'ils te remettent vos papiers de famille en même temps?
Non, alors on a son acte de naissance, mais avec du coup son identité initiale.
D'accord. Et toi, tu dois faire toutes les démarches d'adoption derrière.
Voilà, c'est ça. Donc là, on est encore en cours, hein. On n'a pas encore adopté Gustave. Donc dès le début, il faut monter un dossier, hein, assez lourd, qui part au tribunal de grande instance. Et là, donc, on est toujours en attente de l'adoption plénière, en fait.
D'accord. Oui, donc c'est
bien. Sachant que ça a pris du coup là du retard avec le confinement, tout ça. Mais non, au début, nous, on est un peu considérés comme une famille d'accueil.
D'accord, oui.
Et il faut aussi quand même qu'il y ait, qu'ils vérifient que ça se passe bien aussi chez nous. Que la mise en relation se passe bien et que voilà, donc il y a malheureusement des échecs d'apparentement, donc rarement hein, sur des petits, mais y a on a entendu quelques histoires d'échecs d'apparentement, donc c'est pour ça aussi que l'adoption n'est pas prononcée immédiatement.
D'accord.
Bon, il faut vérifier quand même que les choses se passent correctement. Ouais.
Et vous vous faites accompagner d'un avocat pour l'adoption?
Non, pas du tout.
D'accord.
Non, il n'y a pas besoin.
D'accord.
Ouais, juste le dossier au tribunal de grande instance. Donc c'est complètement différent de l'adoption du coup. On est deux mamans avec une maman qui a porté l'enfant. C'est différent.
Oui, c'est complètement différent.
Là, on est vraiment d'emblée, voilà, parent numéro un, parent numéro deux, voilà. Donc c'est le côté, on va dire, positif, je trouve, de ce parcours-là et de ce projet-là. Et quand ça aboutit, il n'y a aucune question à se poser. C'est maman 1, maman 2, il n'y a aucune différence en fait.
Oui. Mais
toutes les deux d'emblée, les deux parents.
Ouais.
Donc ça, c'est chouette.
J'en arrive, parce qu'on est déjà plus proche de la fin de l'épisode que du début, on va dire.
Oui.
J'en arrive à te poser une question que je pose fréquemment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, enfin vous souhaiter pour la suite?
Nous souhaiter pour la suite, de continuer dans ce bonheur-là, de continuer à profiter, de Gustave. Ouais, je pense que là on a un peu tout là, donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à nous souhaiter de plus que de continuer dans ce sens-là et de surtout continuer à voir Gustave s'épanouir dans notre famille. Ça c'est un bonheur immense.
Oui.
Donc voilà, donc que ça continue comme ça.
Et c'est ce que je vous souhaite, parce que vraiment, je pense que vous êtes extrêmement méritante, vous avez une force de caractère, mais une force tout court qui est phénoménale. Je pense qu'on serait nombreux à avoir baissé les bras, et à avoir peut-être même renoncé à la parentalité. Enfin, votre histoire est hyper touchante et enfin, je la trouve extraordinaire. Enfin, vous avez réussi là où d'autres n'auraient pas réussi parce que c'est vous en fait. C'est vous et puis c'est Gustave.
Ouais, c'est ça me touche beaucoup que tu dises ça. Après, c'est vrai que quand on est dedans, on se rend absolument pas compte de ce qu'on fait, du parcours. Enfin, voilà, on est dedans, on est à fond. C'est vrai que depuis quelques mois, on prend un petit peu la mesure de ce qui s'est passé, de ce parcours qui a été extrêmement, extrêmement douloureux. C'est vrai que quand j'écoute notamment tes podcasts et quand j'écoute, quand j'entends des parcours qui ont été beaucoup plus faciles, notamment de PMA, c'est vrai que ça me fait mal. Ça me fait très mal et ça fait encore ressurgir beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Et voilà, et c'est vrai que quand on se retourne sur ce parcours, et parfois on se dit, mais c'est vrai, comment on a fait en fait? Comment on n'a pas craqué? Comment on s'est accroché? Et voilà, donc si c'était à refaire, vu l'issue, je pense qu'on le referait, mais waouh, c'est chaud.
Ouais, non, mais c'est clair.
C'est chaud, mais c'est beau.
Voilà, c'est chaud, mais c'est beau. Mais enfin, tu vois, ça me fait vraiment penser, et ça, je pensais tout de suite quand j'ai écouté l'épisode d'Élise, au mantra, enfin à la citation de Mark Twain qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et vraiment,
c'est ça.
Voilà, c'est exact.
J'adore cette citation.
je pense que c'est vraiment, ça résume votre histoire.
C'est exactement ça. je suis tout à fait d'accord.
Je te remercie beaucoup Clémence d'avoir à nouveau partagé cela cette fois-ci avec moi. Je sais que c'est pas évident, que c'est voilà, que réévoquer tout ce parcours, c'est dur, c'est difficile. C'était, je pense, très important de pouvoir évoquer le fait que l'adoption en France par un couple de même sexe est possible, même si c'est pas simple, c'est loin d'être simple, mais ça se fait, ça existe.
Oui, ben non, mais c'est moi qui te remercie de m'avoir permis de raconter à nouveau notre histoire, parce que c'est vrai que c'est douloureux, mais c'est aussi très très joyeux, c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est très joyeux, et ça donne beaucoup d'espoir. Et juste pour une nouvelle note d'espoir aussi, quand on nous a annoncé qu'on allait être maman d'un petit garçon, on a su aussi que dans le département du Nord, il y avait un couple d'hommes mm-hmm. qui allait être papa d'une petite fille.
Oh, génial.
Voilà, donc les choses avancent, les choses bougent, et que je pense qu'il faut, bah, si en tout cas c'est un projet pour certains couples, il faut y aller, quoi. Mm-hmm. Il faut se lancer, et la preuve c'est que c'est possible.
Exactement, et je pense que c'est ce message d'espoir là qu'il faut qu'on retienne tous.
Effectivement. Et voilà, en tout cas, nous, on serait ravis de, s'il y a des questions plus spécifiques au parcours d'adoption, à apporter des réponses s'il y a des couples qui veulent se lancer dans l'aventure. Avec plaisir.
Écoute, si tu es d'accord avec ça, je mettrai en lien de cet épisode ton compte Instagram pour qu'on puisse venir vers toi.
Bien sûr,
super.
Bien sûr.
Je te remercie beaucoup, Clémence. Bonne soirée.
Ben, merci à toi.
Je t'en prie.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, et plus particulièrement sur Apple Podcasts, afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire, et ainsi, nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte de Clémence ainsi que les jolies photos de At la cabine de Margot. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à dans 15 jours pour écouter un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand. Hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Alone.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.